croyants, Ensemble vers la paix, une émission produite par Vivre Ensemble à Cannes. Aujourd'hui, des mots empruntés au cœur des hommes pour réintégrer le cœur de l'âme. C'est ce que nous vous proposons, une pierre à l'édifice, une de celles qui ont égrené notre chemin, notre quête. Nous vous proposons de parler d'amour, parce que nous avons de l'amour à revendre, mais voyez-vous, nous préférerions le donner. Cet amour qui nous dit « Je suis venu te prendre par la main pour te priver de ton cœur et de toi-même et te mettre dans le cœur de l'âme. » Car avec l'amour, voyez-vous, on ne peut jamais se tromper. Pas seulement l'amour avec un grand A, celui qui fait de nous des amoureux enivrés par la seule présence de l'aimé, mais aussi l'amour avec un petit A, l'amour que l'on ne voit pas, l'amour auquel on ne croit plus, celui qu'on a perdu, que l'on cherche, que l'on retrouve, que l'on reçoit ou que l'on donne. L'amour qui jamais ne divise en se multipliant. C'est sur ce mot que le visage déterminé et tendre de Martin Luther King s'est imposé à moi. Martin Luther King, celui qui rejetait la vengeance, la revanche, la violence, celui qui craignait plus le silence de ses amis que les mots de ses ennemis, celui qui simplement disait de faire le premier pas sur le chemin de la foi, juste le premier pas avant d'ajouter « tout le monde peut être important ». Car tout le monde peut servir à quelque chose. Alors merci à vous toutes et tous de nous permettre chaque semaine de servir une cause qui fait battre et s'arrêter notre cœur chaque jour par la magie de son souffle.
Vous écoutez RCF sur la croisette sur 96.8.
La magie de son souffle nous amène aujourd'hui à vous proposer un vivre ensemble à Cannes vu par la communauté protestante et anglicane de Cannes. Anglicane de Cannes, ça, elle est jolie. Bonjour Gilles Williams.
Oui, bonjour Pauline.
Bon, j'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on vous l'a fait, Anglicane de Cannes.
Non.
Oui, bien sûr. Bon,
on l'a déjà entendu.
Pierre Lacoste, bonjour. Vous êtes le référent Vivre Ensemble à Cannes de cette émission dans un instant.
C'est trop d'honneur.
Non, mais je vous en prie, c'est un plaisir pour nous. Alors, Pierre Lacoste, vous êtes pasteur. On va parler aujourd'hui, entre autres, des deux, hein, des protestants et des anglicans. On va essayer de considérer que les personnes qui nous écoutent, qui sont sur RCF, a priori sont assez au courant, hein, c'est une radio chrétienne. En revanche, depuis l'arrivée de cette émission « Croyants ensemble vers la paix », un certain nombre de personnes non habituées aux radios chrétiennes, comme les musulmans, les juifs ou les bouddhistes, écoutent cette émission et sont peut-être un peu moins au fait. Donc parfois, on essaie d'être un petit peu plus précis. Donc, en France, les protestants représentent 4% environ, on dit, hein, ce sont des chiffres des Français. Et en revanche, en Europe, j'ai lu qu'ils représentaient plus de 500 millions de protestants dans le monde.
Dans le monde, parce qu'en Europe, ça ferait beaucoup. Oui, dans le monde.
En Europe, ils représentent 500. Déjà plus du quart de la population.
Oui, parce que les pays du nord de l'Europe sont des pays qui se sont ouverts officiellement à la réforme au XVIe siècle.
Alors, vous êtes pasteur de... Oui, allez-y.
La Hollande, l'Angleterre, on en parlera...
Dans un instant,
L'Allemagne, surtout, la première nation à s'être ouverte aux idées de la réforme, c'est l'Allemagne, oui.
Alors, vous êtes pasteur de l'Église protestante évangélique libre de Cannes. Alors, évidemment, en préparant cette émission, je suis allée sur votre site internet pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cette Église. Et j'y ai lu un très bel édito. Je vous le dis parce que j'y ai lu des phrases qui m'ont beaucoup touchée. Des phrases qui disent « Notre culte, sans être liturgique, reste solennel. Les chants, ils sont accompagnés. » Au piano, guitare, violoncelle et pour les classiques à l'orgue. Nous ne sommes pas dans la mouvance charismatique ou pentecôtiste. Disons plutôt des protestants évangéliques qui aimons prier Dieu paisiblement, profondément, en restant à l'écoute de la Bible. Ça vous donne envie de nous rencontrer? Alors oui, moi ça m'a donné envie de vous rencontrer un petit peu plus.
Mais tant mieux, venez nous voir, venez nous visiter, vous serez accueillis fraternellement.
Alors vous êtes pasteur, quel est le sens de ce mot précisément, d'être pasteur?
C'est un berger, un pasteur. Alors traditionnellement, le pasteur c'est celui qui conduit le troupeau. C'est un terme d'ailleurs qui est ambigu parce que dans l'Église protestante, ce n'est pas un homme qui conduit le troupeau, c'est un service... collégial. Il y a un groupe de croyants qui représentent d'ailleurs tous les croyants, souvent par voie démocratique, par élection. Et on appelle un pasteur non pas pour être le patron, mais pour jouer le rôle d'enseignant. Donc c'est peut-être que cette image du berger est peut-être un peu trop paternaliste pour traduire la réalité du ministère pastoral dans nos églises protestantes.
Alors ministère, voilà le mot aussi, parce qu'on l'appelle les ministres.
Le ministre, c'est-à-dire le serviteur, puisque le mot ministère veut
signifie
dire service.
Serviteur. Alors ça, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai appris quelque chose vraiment et j'avais envie de le partager. Ministre, ce mot vient du latin ministère qui signifie serviteur. Certains de nos hommes politiques feraient bien de s'en inspirer, mais ça, c'est juste un aparté. Alors quant à vous, Gilles Williams, alors Est-ce qu'on dit que, je sais que je vous ai déjà posé la question et c'est un peu compliqué, vous êtes révérend, ou on vous dit aussi pasteur, de la communion anglicane, et ce mot de communion n'est pas employé par hasard. Est-ce que vous nous dites deux mots de l'anglicanisme, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas? Enfin, deux mots, ça va être dur, mais je sais. Mais...
Oui, bon, l'église anglicane est une église qui est née en Angleterre à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, mais qui continuait, c'était toujours les mêmes chrétiens qui allaient dans les mêmes églises, dans les mêmes paroisses, avec les mêmes prêtres et les mêmes évêques, etc. Mais qui, à ce moment-là, ils ont coupé leur lien avec Rome. Alors, ça veut dire que, à la différence d'autres églises de la Réforme, nous avons conservé pas mal de nos structures, pas mal de notre liturgie, pas mal de nos systèmes qu'on avait déjà précédemment lors de notre union avec l'Église catholique de Rome. Et dans ce sens-là, on croit être catholique, peut-être avec un C minuscule.
Mais... Oui, mais alors, j'ai lu quelque part qu'on vous place un peu comme un pont entre les deux, certains en tout cas, entre catholiques et protestants. Parce que...
Oui, en quelque sorte, c'est vrai, oui.
Bon, bah, on va en parler plus avant. Nous avons également rencontré, il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui malheureusement, Paolo Morlachetti, qui est pasteur de l'Église protestante unie de Cannes, et c'est lui-même qui va la présenter.
L'Église protestante unie de France est effectivement une église qui vient de naître. C'est une union de deux églises historiques, l'Église luthérienne et l'Église réformée. La première, issue directement de la réforme de Martin Luther, la deuxième, plus caractéristique du milieu de Jean Calvin, réformateur de Genève. Alors, la naissance de cette église a lieu avec l'année 2013, mais c'est un processus d'union qui a pris plusieurs années. Nous allons vivre notre premier synode national en France pour le week-end de l'Ascension, donc ça sera le 10 mai 2013. Et c'est un événement joyeux. Moi, personnellement, je n'avais jamais assisté à l'union entre deux églises. Je l'ai vécu de l'intérieur, donc j'ai vécu le dernier synode de l'Église réformée. Je vivrai le premier de l'Église protestante unie. Pour nous, c'est un témoignage d'unité très important. Et c'est aussi l'affirmation publique du fait qu'il est possible vivre ensemble, être la même Église, malgré nos différences. Donc ce sont des différences qui ne sont pas une entrave à la vie commune, mais sont une source d'enrichissement.
Voilà, on en arrive directement, Pierre Lacoste, au principe que vous avez souhaité pour cette émission, qui est de s'appuyer sur le texte d'orientation de l'Église protestante de France. Alors là, il faut nous en dire un petit peu plus.
Oui, ben, c'est parce que c'était l'actualité. Les questions œcuméniques et l'interreligieux ne sont pas une découverte de la Fédération protestante de France, mais un texte, effectivement, vient d'être... validé par l'Assemblée Générale qui s'est tenue fin janvier à Paris. La Fédération protestante de France réunissant 80% des protestants sur le territoire français. Et ce texte parle effectivement à la fois d'œcuménisme, de dialogue interreligieux et d'interculturalité. C'était une volonté de réunir ces trois dimensions des dialogues auxquels les églises protestantes vivent actuellement, parce que souvent on aborde chacune de ces thématiques à part. Et là, l'originalité de ce document, c'était de les traiter ensemble et de montrer en quoi elles peuvent être abordées ensemble et quelles sont leurs relations.
Alors bon... Aborder ensemble, on ne va pas, nous, en tout cas dans cette émission, totalement les aborder toutes ensemble, mais effectivement, on va s'apercevoir que les liens entre l'œcuménisme, l'interreligieux et l'interculturel sont une évidence. Bien entendu, on ne peut pas totalement les séparer. Mais nous allons commencer par l'œcuménisme. D'abord, l'œcuménisme, Gilles Williams, la communauté anglicane est très engagée dans l'œcuménisme. Ça n'est pas quelque chose de nouveau ou de récent. Il semblerait que toutes vos positions permettent de prétendre justement à être ce pont entre les catholiques et les protestants et que donc vous êtes une représentation de l'œcuménisme.
Ah. C'est l'incarnation.
C'est ce que l'on lit. Représentation, je vais pas aller plus loin.
Bon, l'Église anglicane a toujours participé dans le Conseil mondial des églises depuis un siècle déjà. Et il y avait une grande convention, la conférence d'Édimbourg en 1915, je crois, et qui a lancé un peu l'œcuménisme moderne. Et l'Église anglicane a toujours participé. L'Église anglicane n'est pas uniquement en Angleterre, c'est partout dans le monde. Et alors, on n'est pas une église.
Ça n'est pas une position un peu, enfin, je ne sais pas, je vous pose la question comme ça, un peu inconfortable d'être ce pont dont... Parce que, est-ce que vous êtes catholique, est-ce que vous êtes protestant?
Bon, c'est seulement...
On est anglican.
Ce qui n'est pas confortable... Pardon. Ce qui n'est pas confortable, c'est d'essayer d'expliquer ça aux autres parce qu'ils ne comprennent pas du tout.
C'est vrai que ça n'est pas simple.
Et s'ils disent qu'ils comprennent, c'est qu'ils n'ont pas compris. Hein.
Bon,
alors, c'est très compliqué, mais entre nous, on essaie d'être des chrétiens fidèles avec une certaine tradition ou plutôt une mélange de traditions. On est une église assez large. Il y a ceux qui sont très catholiques, ceux qui sont très protestants. Alors, c'est une église qui a beaucoup de complications, c'est vrai.
Alors, ces liens de fidélité tissés entre les communautés chrétiennes dont parle ce texte d'orientation, qui demande de maintenir ces liens de fidélité, de poursuivre les relations avec de nouveaux partenaires, d'élargir, c'est parce que c'est un réel besoin ou c'est juste la continuité de quelque chose?
Le dialogue œcuménique existe depuis longtemps entre protestants et catholiques. Il a connu des moments forts, comme la période qui suit Vatican II et qui a été pour les catholiques une véritable ouverture, un véritable besoin aussi de dialogue. Et donc depuis cette période de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à la fin du siècle, pratiquement, il y a eu énormément de travaux de dialogue, d'écrits, de publications, jusqu'à l'entrée dans le XXIe siècle. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que le dialogue œcuménique entre protestants et catholiques s'essouffle, du point de vue en tout cas de la théologie et des grandes avancées qui ont eu lieu à la fin du XXe siècle, et au milieu et jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, je dirais que l'œcuménisme se cherche. C'est probablement lié aussi à l'affaiblissement de la masse pratiquante dans les églises catholiques et aussi chez les protestants. On est une toute petite minorité en France. Mais disons qu'on a toujours été une minorité, nous. Mais c'est le phénomène, c'est que le catholicisme en France, la pratique s'effondre et qu'aujourd'hui, les prêtres et le Vatican aussi, en premier, essaient de resserrer les rangs. Et donc, les priorités ont changé. C'est plus forcément le dialogue œcuménique qui est devant, mais plutôt le fait d'avoir conscience d'être chrétien dans une église. C'est ça qui semble être les priorités actuelles.
Et effectivement, comme nous le dit Paolo Morlachetti, on revient dans un instant avec vous, Pierre Lacoste, les églises protestantes sont parmi les pionniers de ce mouvement œcuménique.
Les églises protestantes sont parmi les pionniers du mouvement œcuménique qui se forme au début du XXe siècle avec le Conseil œcuménique des églises. Le pasteur Wissertoft, un pasteur réformé hollandais, est un des pères justement du Conseil œcuménique et cette fraternité se concrétise de manière visible une fois par an lors de la prière pour l'unité des chrétiens. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens que d'ailleurs nous venons de vivre à Cannes au fil de 5 rencontres dans lesquelles nous sommes allés dans les différentes communautés chrétiennes. Donc c'est un cheminement déjà long, il y a déjà un héritage œcuménique qui n'est pas uniquement vécu dans des moments formels dans la ville de Cannes, mais est vécu sur le terrain, parce qu'il y a des associations qui sont œcuméniques, comme par exemple le Ciné-Envol, le Ciné-Club œcuménique, l'ACAT, l'Action de chrétiens pour l'abolition de la torture. Il y a un jury œcuménique qui vient au Festival de Cannes et qui est accueilli par la communauté de l'Église protestante unie et la paroisse catholique Saint-Nicolas. Il y a l'association J'avais faim, dans laquelle des personnes catholiques et protestants sont impliquées. Il y a aussi l'association Apprendre ensemble, qui alphabétise les étrangers. Donc il y a un vécu concret, très présent et bien enraciné dans le contexte social de la ville de Cannes. Cependant, le christianisme est une réalité complexe et il y a d'autres mouvements, d'autres églises qui n'ont pas été parmi les premiers à rentrer dans ce dialogue œcuménique. Et je pense que le défi que nous nous donnons, c'est celui de partir à la rencontre de ce frère et de ses sœurs pour construire des liens de dialogue, de fraternité, de spiritualité profonde, tout en gardant et en faisant croître encore plus les liens de fidélité qui existent.
Alors faire croître encore plus les liens de fidélité qui existent, c'est une part. La seconde part étant trouver de nouveaux partenaires. Quels sont ces nouveaux partenaires potentiels dans l'œcuménisme ?
Pierre Lacoste. Le protestantisme change effectivement de visage. En cette fin, en ce début du XXIe siècle, la mouvance évangélique semble, même c'est confirmé maintenant, émerge d'une façon tout à fait étonnante. Elle n'est pas le protestantisme majoritaire, mais elle est en croissance. Et chaque année, les chiffres changent en faveur de cette mouvance évangélique qui demain, d'après les spécialistes et sociologues, sera le nouveau visage de l'Église protestante de France. Or, ces églises évangéliques n'ont pas de tradition œcuménique par conviction.
Bien sûr.
Et ce qui va arriver, à mon sens, dans les années à venir, c'est que des dialogues vont s'établir parce que ces églises évangéliques, dans leurs convictions éthiques notamment, pas tellement dans le champ dogmatique et doctrinal, mais plutôt dans le champ éthique, se retrouvent très proches des postures, des convictions et des positions de l'Église catholique concernant l'éthique sexuelle et d'autres domaines éthiques encore qu'on pourrait citer. Et donc là, ces nouveaux partenaires, si je peux les appeler comme ça, en tout cas, ces églises évangéliques ne sont pas sans affinité, quoi qu'elles s'en défendent, puisque d'un point de vue dogmatique et doctrinal, elles se refusent à entrer dans un dialogue œcuménique, mais du point de vue des positions éthiques, elles ressemblent de très près au positionnement des églises catholiques en France aujourd'hui.
Est-ce que le même type de problème peut se poser pour les anglicans, trouver de nouveaux partenaires, de nouvelles personnes, de nouvelles églises vers lesquelles aller travailler cet œcuménisme justement ?
Bon, la situation varie selon les pays. Ici, en France, les anglicans sont très minoritaires et on est là surtout pour essayer de faire une mission envers les communautés anglophones.
Et nous, on va essayer de vous emmener pour faire des missions envers les autres communautés. L'interreligieux, c'est le sujet qu'on va aborder dans un petit instant, Gilles Williams.